Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment à corps au corps.
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. La route se tait. La route est noire. À perte de vue, je fais trois pas. La route n'est plus sur la main haute. Je suis monté, la tête est pleine.
Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir.
Professeur Henri Laborie.
J'étais comme la plupart des gens qui passent leur vie à attendre le bonheur comme on attend un héritage. Quelque chose qui vous est dû. L'héritage d'un oncle d'Amérique.
L'Amérique, ça n'existe pas. Je le sais, j'y ai vécu.
L'inconscient constitue un instrument redoutable, non pas tellement par son contenu refoulé parce que trop douloureux à exprimer, car il serait puni par la socioculture, mais par tout ce qui est au contraire autorisé et quelquefois même récompensé par cette socioculture et qui a été placé dans son cerveau depuis sa naissance, dont il n'a pas conscience que c'est là. Et pourtant, c'est ce qui guide ses actes. C'est cet inconscient-là qui n'est pas l'inconscient freudien qui est le plus dangereux.
Merci Yves Cronu d'être là aujourd'hui pour cet accord au corps, tout à fait dans les règles, puisque justement on a le fondateur qui va avec le praticien que tu es.
Merci
Yves. Donc Yves, tu vas très certainement nous commenter pourquoi tu n'es pas ostéopathe malgré que tu le sois. Enfin, tu es certifié du Credo depuis 2006, Credo étant le centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie. Tu t'es également formé en magnétisme, tu as pratiqué les arts martiaux comme l'aïkido depuis 23 ans, ce qui t'a donc permis d'avoir une approche sensitive du corps physique et énergétique. Tu es ostéopathe, mais pourquoi est-ce que tu préfères parler de thérapie manuelle ? Ce qui est plus large peut-être ? Ce qui permet d'inclure d'autres techniques aussi ou...
Alors, peut-être que je peux redonner quelques éléments de toutes ces formations.
Uh-huh. Oui, prendre le temps de réellement expliquer qu'est-ce que c'est le terrain de l'ostéopathie et d'où ça commence et puis où, vers quoi ça élargit les espaces en fait, enfin les possibles.
Pour revenir donc à l'ostéopathie, uh-huh. Je vais juste donner quelques éléments qui m'ont amené à me former dans cette pratique. Donc j'ai fait en effet l'école de centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie qui... était, parce que cette école n'existe plus, elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Eurothéma, mmh. Européenne de thérapie manuelle. Contrairement à beaucoup de personnes qui font des soins, je n'étais pas destiné à ça. J'ai eu une formation technique, c'est-à-dire j'ai fait un bac mécanique générale et un BTS en automatisme industriel.
D'accord.
Donc voilà. à l'origine, j'ai été formé vraiment comme un technicien sur les balbutiements d'ailleurs de l'informatique à l'époque. Mmh. Et j'ai travaillé dans une industrie. Et je dirais que mon parcours de vie, à un moment donné, trouvait d'autres chemins. Mmh. J'ai commencé à pratiquer l'aïkido et cette pratique, je suis revenu, je dirais, à des pratiques que je connaissais. J'avais fait du judo quand j'étais plus jeune. Je me disais, moi je veux faire des arts martiaux en fait et je voudrais être professeur d'arts martiaux. Mmh. Et donc à l'époque, j'ai pratiqué de l'aïkido, j'ai pratiqué du kendo qui est la forme d'escrime japonaise. Mmh. J'ai pratiqué du tai chi, qui est une pratique d'art martial qu'on appelle interne, du qigong, enfin voilà, différentes pratiques. Et je me suis consacré énormément, c'est-à-dire que j'en faisais entre 12 et 18 heures par semaine.
Est-ce que tu peux nous raconter l'origine du qigong ?
L'origine du qigong ? Oui. Du tai chi. En fait, le tai chi, c'est un art interne, énergétique, mm-hmm. chinois, qui aurait été inventé par des moines. Mmh. Pour permettre aux moines et aux nonnesses de pouvoir échanger énergétiquement ensemble, mmh. sans avoir de relations intimes.
Voilà.
Hein, et d'accord. Donc le tai chi aurait été inventé pour en fait rééquilibrer et échanger des énergies entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est du qigong, je ne sais pas. C'est vrai qu'en Chine, il y a énormément de pratiquants de tai chi, qigong, qui pratiquent le matin, mm-hmm. hein, dans les parcs. Et on sait en effet que ces pratiques permettent une autorégulation sous forme énergétique, puis ensuite cellulaire, mm-hmm. pour avoir une meilleure santé, plus d'actifs, et être, je dirais, des bons petits soldats de, mm-hmm. de Mao.
En fait, c'est assez intéressant parce que ça rejoint ce questionnement de quelle maladie dans quelle société.
Voilà, oui.
Quelle santé dans quelle société, si on veut voir les choses d'un point de vue plus positif.
Professeur Henri Laborie.
Quand on prend un rat et qu'on le met dans une cage à deux compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermittemment, et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal, qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état. En parfaite santé, son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique.
Dans le film donc Mon oncle d'Amérique de, oui. d'Alain René, c'est la voix de Laborie lui-même là ?
Oui. En fait, Alain René s'est intéressé à Laborie parce que Alain René, ses films, c'est des films de penseurs pour la plupart. Il a, je ne sais comment, pris connaissance des travaux de Laborie et il a été extrêmement intéressé. Et il a décidé en fait de faire un film. Donc, il s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui est basé sur les travaux de Henri Laborie pour montrer comment. Dans une société, alors c'était une société des années 80, hein, je pense, 80, ouais, à peu près dans les années 80, mm-hmm. comment un système social peut créer chez des individus des maladies. Quels sont les déclencheurs ? C'est ce que raconte ce film. faisant intervenir Henri Laborite.
En direct, enfin
en
vraiment.
En direct, voilà.
En acteur,
exactement. Et d'ailleurs, dans ce film, on voit les expériences avec les rats de laboratoire que décrit Laborite là, dans cet extrait, qui montre comment l'inhibition de l'action peut créer une pathologie. Donc là, c'est sur des rats. Et comment, en fait, il peut s'en sortir avec, d'une façon ou d'une autre, soit seul par une porte de sortie, soit parce qu'il a un autre congénère sur lequel il peut, en fait, taper. Et donc, cet élément va sur le rat qui est le plus fort, on va dire, ne pas induire de pathologie. Donc, c'était aussi dans ses recherches sur pourquoi la guerre, pourquoi la violence, pourquoi des jeunes de 20 ans se font tuer donc dans les guerres. C'était une question qui s'est longtemps posée en tant que chirurgien des armées. Ce que je comprends hein, de ce film et de sa pensée, c'est de dire, voilà, j'ai deux individus. Un est soumis à un stress continuel, celui d'une société. Si cet individu peut trouver un angle de fuite seul, bien, pour lui, tout se passera bien, même si le stress est continu et bien, il va à son travail, il vit sa vie, et il a, je dirais, un espace de fuite qui lui permet de se soustraire à ce stress collectif. Maintenant, j'enferme cet individu, je ne lui permets plus de se soustraire par lui-même, mais je lui mets un autre individu en face. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il fait? Et comment il se comporte? Sachant que quand il est seul dans le stress, sans espace de fuite, il devient malade. Il le prouve par ses expériences. Mmh. Et là, il mène un autre individu avec lui, un autre rat, donc dans la cage. Et le rat le plus fort domine l'autre. Mmh. Et le dominant n'est pas malade alors qu'il est toujours soumis au même stress. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans la biologique, cet élément permet de ne pas être malade, et donc en fait c'est cet espace de domination, en tout cas de passer son stress sur un élément, donc là sur un autre. Et donc quand on comprend ça, on voit aussi combien dans notre société, même actuelle, comment les interrelations de dominé à dominant permettent, je dirais, une certaine forme de non-pathologie.
Mais alors, ça veut dire quand même que le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est-à-dire tu as la santé sur la maladie de l'autre.
C'est...
Si je comprends bien.
Vu comme ça, c'est ça. Oui, un petit peu. Oui, on peut dire comme ça. Tant qu'un individu sera soumis à un stress, qu'il soit sociétal, collectif ou religieux, tout ce qu'on veut, eh bien, il va trouver un espace, je dirais, de sauvegarde, de survie, je dirais même de survie, en allant dominer quelqu'un d'autre.
C'est ça, donc dans le pouvoir, dans la domination, dans une certaine violence en fait.
Tout à fait, une violence qui va donc, au lieu que la violence reste à l'intérieur, elle va s'exprimer sur un autre individu. Dans certaines pratiques de psychothérapie, ou je dirais de thérapie cognitive, on fait taper les personnes avec qui ont beaucoup de violence à l'intérieur sur des oreillers avec un bâton, des objets, de façon à libérer des espaces.
Bon, ça, c'est déjà des psychothérapies qui s'intéressent quand même un peu à la somatique, parce qu'en fait, on libère un certain nombre d'énergies négatives, non ? Ou de mémoire, quoi. De nœuds qu'il y a dans ton corps. Enfin, taper, c'est bouger, non ?
Oui, c'est remettre le cerveau, pourquoi il est fait. C'est ce que disait bon Laborite, le cerveau, c'est fait pour penser, c'est fait pour agir. Et j'ai une petite anecdote. Au Japon, dans certaines grandes sociétés, alors je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à une époque pas très assez moderne, il y avait à l'entrée des bâtiments de l'entreprise une statue du chef et un bâton. Et les personnes qui n'étaient pas en accord avec le chef venaient le matin, tapaient sur le chef et après allaient travailler. Mmh. c'était une autre façon de pratiquer.
Waouh. Parce qu'en même temps, voilà, bon, il n'y avait pas le déni du problème, mais il n'y avait pas de résolution non plus.
Il n'y a pas la résolution, mais il y a ce pas. Je pense que c'est ce sur quoi il insiste, hein, c'est le passage à l'action, en fait. Quelle que soit cette action, ça peut être une action de fuite, une action de combat ou une fuir, c'est une action. Je vais d'un endroit à un autre, j'utilise un système d'action, et à partir de ce moment-là, je ne suis pas malade, puisque j'agis. Si on m'empêche d'agir, il faut que je trouve un autre moyen d'action. Et notre système cognitif va faire une action sur un autre.
Dans l'expérience du rat, l'isolement, la solitude, le fait de fuir, qui était aussi une action, ne garantit pas la santé, en fait.
Si, dans ces expériences, oui, tout à fait.
D'accord.
D'ailleurs, un de ses livres qui s'appelle « La lutte ou la fuite » décrit de façon scientifique ce qui se passe au niveau des glandes endocrines, au niveau des surrénales, notamment la mise en route de tous ces systèmes. Et ce sont des livres extrêmement difficiles à lire, hein, qui sont le fruit d'une recherche scientifique extrêmement poussée.
Surtout, est-ce que, en fait, ce qu'il a dit, découvert ou essayé de formuler a déjà été digéré quelque part? C'est en cours, non? Je vais lire une citation que je trouve assez synthétique de lui et du film, d'ailleurs. « Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant que l'on n'aura pas dit que, jusqu'ici, cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. » Ça résume bien la connexion entre ce qu'on est physiquement, somatiquement, entre le corps, le cerveau, enfin comment on fonctionne, et les rapports de force dans la société, ou la société elle-même, en fait.
De par ses réflexions personnelles, de par son expérience de scientifique, il a posé des... Il est arrivé jusqu'à un niveau de philosophie et de systèmes de pensée qui l'ont amené à réfléchir sur le fonctionnement du cerveau, mais pas que, et à dire, mais si on arrivait à faire comprendre aux gens comment ils fonctionnent, eh bien, il y aurait, entre guillemets, plus de guerre. Parce qu'on sait comment ça marche. Parce qu'ils sauraient comment ça fonctionne et pourquoi ils font ça. Hein? Donc, c'est un peu un précurseur aussi du développement de conscience. C'est par la conscience de qui je suis, de ce que je fais, de comment je le fais, eh bien, je peux justement éviter de rentrer dans des systèmes de guerre, de conflit, en trouvant des systèmes sûrement différents et tout aussi
régulateurs. Tu disais à l'instant qu'en fait, parce qu'il était vraiment sur le terrain en fait pour mener cette réflexion, je n'avais pas conscience, il avait été médecin dans l'armée.
Donc s'est consacré aux soins des militaires et des blessés de guerre, et dans son travail de chirurgien, il ne s'est pas contenté de faire qu'un travail de chirurgien, il a cherché à savoir pourquoi il avait dans les brancards des jeunes de 20, 22 ans qui venaient de se faire blesser ou tuer pendant des conflits. Et donc il s'est dit, mais pourquoi il y a des guerres? Pourquoi j'ai ces jeunes qui sont arrêtés dans leur vie, qui vont être blessés, mutilés, alors qu'ils avaient certainement beaucoup d'autres choses à faire de mourir ou d'être blessés gravement, ou pas d'ailleurs gravement, mais d'être blessés dans des conflits. Et de là, il a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui provoque pour lui les guerres, comment ça fonctionne à l'intérieur de soi. Et puis, donc, il a continué pendant longtemps à être chirurgien, donc des armées. Il a commencé à réfléchir, à analyser, à faire des recherches donc sur le système de fonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, des glandes endocrines, mais pas seulement, j'irais même au niveau des cellules, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le corps produit. Mm-hmm. Alors, je suis beaucoup intéressé aux glandes surrénales avec la noradrénaline, l'adrénaline, et puis tous les précurseurs, et ainsi de suite. Et donc, il a fait énormément de recherches aussi pour soulager, permettre des opérations en innovant sur les produits d'anesthésie. Mmh. À l'époque, l'anesthésie, c'était au chloroforme. Hein, on remet les gens au chloroforme. Le chloroforme, c'est un produit toxique qui peut avoir des graves conséquences sur le système neurologique. Et donc, alors, il s'est dit, comment on peut faire ? Et donc, il a commencé donc, à faire des recherches, partant sur des recherches d'autres personnes, hein, d'autres chercheurs. Et donc, il a mis au point, je dirais, des systèmes de... d'endormissement qui ont permis des opérations longues et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelqu'un qui était un médecin, un chercheur, un chirurgien et qui a poussé, je dirais, de plus en plus loin son niveau de recherche jusqu'à arriver à un moment à avoir une démarche philosophique. Mmh. Il écrivait ses résultats, ses recherches dans son grenier. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'esprit du grenier » et où il décrit comment il fait ses recherches, quelles sont ses pensées. Et ensuite, il a donc fait d'autres ouvrages sur... inhibition de l'action, la lutte ou la fuite, des livres, comme je disais, qui sont scientifiques de très très haut niveau. Mm-hmm. Il a d'ailleurs failli avoir le prix Nobel pour ses recherches et pour la petite histoire.
Donc là, on est dans les années quoi ?
80? On est dans les années, un petit peu avant. On est dans les années 60, 70. Donc, il avait été vraiment nominé pour recevoir le prix Nobel. Alors, je ne sais pas si c'était de médecine ou de physique, mais je crois que c'était de médecine. Et c'est son directeur qui était très jaloux de ses recherches et de son succès, qui est allé voir les gens qui remettaient le prix Nobel en leur disant de ne pas lui donner à lui. Et donc, il n'a pas eu le prix Nobel. Voilà un peu l'histoire de la bruite. Alors après, lui, il est passé à autre chose. Et puis, je pense que c'était quelqu'un qui avait une grande humilité. Il connaissait bien, justement, parce que pour les avoir travaillé, il fait plein de recherches, le système, il appelait de la récompense.
Hein.
Donc, je pense que ça n'a pas dû beaucoup le gêner. D'ailleurs, il n'est pas mort. Il est pas mort d'un cancer. Hein, la borite, il est mort à 80 ans. Et après avoir écrit énormément,
ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne des hiérarchies chez l'homme, de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Si bien que si un microbe passe dans les environs, s'il emporte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là, ne pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse, qu'il aurait détruit, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toute les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui enverrait les agents.
Et puis il faut bien qu'il y ait un chef.
Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage.
Je choisis Vestrat.
Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'ils se succèdent, il est en inhibition de l'action.
Pour continuer mon parcours, donc en 2000, j'échange avec un ami qui fait de l'aïkido et qui pratiquait des soins sur des personnes après les entraînements. Je commençais juste à me poser des questions sur ce que je voulais faire et pas faire. Et là, il me dit, écoute, il y a un stage qui déroule bientôt. L'école est en train de s'ouvrir à des non-kinés, non-médecins. Et donc, t'as qu'à venir, tu verras si ça peut te plaire. Donc, j'ai débarqué dans un groupe, dans un stage d'ostéopathie. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je me rappelle que c'était un cours de crânien qui est le cours sûrement le plus complexe. Du cursus et à l'issue de la journée, à l'intérieur de moi, il y a eu un éclairage et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait.
Super.
Et donc j'ai commencé comme ça en m'impliquant énormément comme je l'avais fait pour les arts martiaux mais dans ces études où je ne connaissais rien, comme je le disais, moi j'avais fait toute une démarche technique donc j'avais une vision des articulations et de ce qu'on demandait de faire en termes de technique, d'apprendre. J'ai dû apprendre énormément par moi-même et puis par l'aide aussi d'autres personnes du groupe qui étaient déjà, eux, pour la plupart, tous soit kinés, soit médecins. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler et d'apprendre avec des personnes vraiment d'un très bon niveau en connaissance de thérapie. Donc là-dessus, j'ai continué et j'ai fait plus de 12 ans de stage. Et puis, en 2007, il y a eu la reconnaissance de l'ostéopathie en France, où tout le monde s'est dit « Ah, c'est super, enfin l'ostéopathie va être reconnue ». Pour avoir énormément travaillé sur mon dossier de reconnaissance de l'ostéopathie, en fait, j'ai commencé à voir, et ce que notre directeur d'école nous disait, c'est que pour que l'ostéopathie soit reconnue, on va lui enlever... Ils sont en train d'enlever, les législateurs sont en train d'enlever plein de techniques ostéopathiques pour que ça puisse être, on va dire, en guillemets, reconnu par la médecine classique, par aussi les kinés, kinésithérapeutes. Et donc.
Par rapport à l'évaluation d'une efficacité.
Bien sûr, parce que nous sommes dans. Là, dans des systèmes de recherche, d'enseignement, et ce qu'on fait doit être prouvé. Et ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. C'est l'idée même de la recherche. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Donc, c'est vraiment des démarches scientifiques. Et c'est vrai que quand on commence à parler de certains sujets sensibles, notamment, je dirais, ce qu'on appelle les mouvements inhérents du corps, ce sont des micro-mouvements sur lesquels les ostéopathes travaillent, eh bien, comment prouver l'existence de ces micro-mouvements? Du coup, à l'époque, donc en 2007, il y a eu donc des décrets qui sont passés avec des cursus universitaires pour l'apprentissage donc de l'ostéopathie, et dans lequel, en fait, on retrouvait bon, des éléments d'anatomie, de physiologie, certaines techniques. Beaucoup de techniques ont été éliminées. Et donc, des écoles se sont créées à ce moment-là, sur avec des formations de 3 ans. Pour être reconnu ostéopathe, donc il fallait passer par une commission, pour ceux qui étaient déjà en exercice, et prouver donc que soit on correspondait à la nouvelle réglementation, je dirais, de connaissances, donc de cursus universitaire, soit nous avions une expérience par ailleurs qu'on pouvait prouver. Alors là, il y a eu tout un micmac entre que la France connaît bien, hein, tous ces systèmes-là. Dès qu'on rentre, si vous voulez, dans des systèmes hyper administratifs, il y a toujours un peu de micmac. Alors, on présentait des dossiers. Nos dossiers étaient analysés par une commission qui disait, ben, lui, c'est bon, il a l'expérience ou il a le cursus qui va bien. Et donc, il est nommé ostéopathe. Voilà, point. Comme tous ceux qui étaient en exercice, puisque j'avais commencé moi, en 2006 à m'installer en tant qu'ostéopathe, j'ai dû donc montrer patte blanche. J'ai envoyé un dossier qui a été refusé. Puis j'ai fait appel. J'ai utilisé justement ma non-démission de l'action en me battant contre une administration sourde et obtuse. Pour leur dire, mais je fais de l'ostéopathie. Et regardez, j'ai fait formation, j'ai fait des tas de choses, en effet, qui ne se rentrent pas dans un cadre pur universitaire, mais j'ai des acquis, j'ai des connaissances. Et donc, j'ai commencé à monter des dossiers et j'ai fait donc 7 ans de procédure administrative. Quand je dis de procédure, c'est-à-dire que j'ai fait appel à des avocats pour défendre mes dossiers. Je suis allé donc jusqu'au Conseil d'État pour être reconnu et je ne l'ai jamais été. En ayant commencé ostéopathe et en me retrouvant donc non ostéopathe, je pensais qu'à l'époque ça allait énormément me poser de problèmes, c'est-à-dire que je n'allais pas pouvoir pratiquer ce que j'aimais faire au plus profond de moi. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je peux porter comme titre? Et on m'a dit, bah, vous pouvez être thérapeute manuel énergéticien. J'ai dit, bon, bah, ok, alors je serai thérapeute manuel énergéticien. Et je me suis donc...
Alors après, question naïve, enfin, ou innocente, parce que je n'ai pas forcément la réponse, l'ostéopathie, elle est remboursée, enfin, elle est prise en charge par des mutuelles, ce que n'est pas du tout la thérapie manuelle et énergétique, c'est ça la grosse différence, en fait?
Alors oui, c'est une grosse différence au niveau...
De
la France, oui, sachant que dans certains pays, notamment en Autriche, puisque j'ai eu l'occasion de soigner des personnes qui vivaient en Autriche, en fait, ils ont une vision très différente. À partir du moment où c'est des soins qui sont pratiqués par quelqu'un qui a un certificat, eux sont remboursés, même pour des pratiques dites énergétiques. Magnétiseur, énergéticien, thérapeute manuel. Et donc, on peut être remboursé. En France, nous, on a un système différent où, en effet, les mutuelles demandent à ce que nous soyons listés sur ce qu'on appelle les listes des fichiers ADELI, qui recensent l'ensemble de tous les praticiens donc, qui portent le titre ou de kiné, médecin, ostéo. En fait, la reconnaissance de l'ostéopathie, si elle était vraiment reconnue, elle serait remboursée pour moi par la sécurité sociale.
Directement, oui.
Et pas que par les mutuelles. Alors, oui, non, mes soins ne sont pas remboursés. Donc ça aussi, ça me posait beaucoup de questions à un moment donné. Je ne fais rien d'illégal. Je ne suis pas ostéopathe, je le dis. Je pratique la thérapie manuelle.
Disons que ça dessine déjà une espèce de chasse gardée de la façon d'envisager les soins chez nous, dans notre pays ou dans notre mentalité surtout.
Nous pourrions le voir comme ça. En effet, c'est possiblement le cas. C'est sûr que dès qu'on parle d'argent et de marché, on est dans un système entre guillemets capitaliste, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une part de marché possible, eh bien, beaucoup vont en effet essayer d'avoir ce que tu appelles
la
chasse gardée.
Ça fait peur parce que, surtout peut-être pour des pratiques où les résultats sont pas évalués de la même façon que d'autres protocoles ou d'autres techniques. Ça me fait tout simplement penser aussi aux herboristeries qui ont beaucoup de mal à perdurer, qui sont quand même des en voie de disparition.
Attends, on disait, il y a des excellentes herboristeries, notamment à Paris.
Oui. Hein, mais enfin, c'est pas quelque chose qu'on encourage à être florissant, parce que à côté de ça, on est quand même dans des politiques de. On aime bien les médicaments en France et.
Pas qu'en France.
Pas qu'en France d'ailleurs, mais je crois qu'on est quand même. Je pense qu'on est un des pays qui consomme le plus de chimie, on va dire. Donc on n'a pas forcément intérêt parallèlement à laisser fleurir des choses trop naturelles ou trop.
Peut-être que. Bon, tout à l'heure, on évoquera certainement quelque chose de beaucoup plus délicat, hein, puisqu'on va parler certainement du cancer. Tant qu'on laisse aux personnes, un peu comme le rat de la bourrite tout à l'heure, la possibilité, en fait, d'avoir un espace de liberté dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils recherchent. Et je dirais qu'il n'y a pas de problème. À partir du moment où on les enferme dans un système, là, il y a un problème. De la même façon que le rat de la bourrite tout à l'heure, qui est seul dans sa cage, soumis à un choc électrique qui va devenir malade, le choc électrique peut être n'importe quel type de choc de société. Et donc, à partir du moment où on enferme les gens dans un système et qu'on ne laisse plus la possibilité de se soigner par eux-mêmes comme eux ont envie de le faire, même si, je dirais, on n'a pas une preuve scientifique que ça fonctionne, eh bien, là, ça pose un problème. Et donc, on va, en fait, rendre les gens malades en voulant les soigner. Et c'est là où il y a un danger. Il faut laisser aux personnes le libre choix de la façon dont ils ont envie d'être soignés. Évidemment, cela fait aussi appel à une conscience collective et même individuelle sur la façon dont on prodigue les soins. Il y a toujours un danger de charlatanisme en faisant croire à des personnes, et ça on l'a vécu à un moment donné avec certains kinésiologues qui empêchaient les gens en fait de se soigner avec des médicaments alors qu'ils en avaient besoin et les personnes mouraient. Il y a eu des cas qui ont été évoqués, alors du coup après ça discrédite totalement une profession. Évidemment, comme tu le disais, on est dans un système de parts de marché, on a un système monétaire, de laboratoires tout puissants, on l'a vu il y a encore pas longtemps, de systèmes aussi dits scientifiques qui finalement ne sont que des systèmes pour faire de l'argent, au détriment quelquefois même de la sécurité de la santé des personnes. Ça c'est un problème, je dirais, de conscience collective et de conscience individuelle.
Oui, parce que moi je te trouve encore très positif. C'est vrai que des fois, on est dans des situations où il y a confiscation du corps de la personne, en fait, parce qu'elle va être dans une logique où il n'y a pas d'autre issue que d'appliquer un certain nombre de protocoles. Enfin, parce qu'elle est prise dans une logique qui, au bout d'un moment, est une machine. Enfin, là, je pense à une personne qui, par exemple, n'a jamais été malade de sa vie et qui est confrontée à la logique de se retrouver aux urgences, à l'hôpital, etc. Enfin, ça peut aller très vite et on est quand même plutôt dans... non seulement l'intention de responsabiliser la personne, ça c'est arrangé, hein. Mais je veux dire, par exemple, moi je pense que la génération de mes parents, donc née avant la guerre, faisait entièrement confiance au médecin et le médecin ne travaillait pas l'autonomie, en fait, du patient par rapport à son propre corps. On confiait son corps à la médecine. Et comme si on n'était absolument pas acteur de ce qui allait se passer. Et on subissait où en étaient les choses, qu'est-ce qui pouvait se faire par rapport à tel symptôme et telle spécialité, puisque la médecine allopathique, elle a aussi le désavantage d'être devenue très très spécialisée et que les médecins spécialisés s'occupent réellement d'un domaine, alors qu'en fait, il y a plein d'autres pratiques et de soins qui peut-être sont complémentaires parce que juste, ils vont refaire le lien.
Il faut quand même voir là où on est par rapport à là où on était. Je ne crache jamais sur la médecine, bien au contraire. Je pense qu'on peut tous travailler ensemble. Comment ça se fait que j'ai des patients? Parce que j'ai des médecins qui ont reconnu par leurs patients des effets positifs de mes traitements. Je dirais que grâce à des médecins, j'ai pu pratiquer et j'ai été, entre guillemets, reconnu alors que des commissions ne me reconnaissaient pas.
Voilà. C'est ça, en fait, c'est ceux qui consultent qui peuvent prouver qu'il y a une complémentarité, en fait, et qu'ils ont besoin...
Je dirais que dans le passé, avant la guerre de 14, il y avait à Paris des rebouteux, il y avait des herboristes, Il y avait, des magnétiseurs. Mmh. Il y avait toute une panoplie. Et chez les Romains, chez les Gaulois, chez les Celtes, on retrouve des pratiques ancestrales. On a même retrouvé des crânes trépanés qui dataient de Cro-Magnon. À Cro-Magnon, l'âge de pierre, il y avait des gens qui savaient faire des trépanations. Des gens,
donc trépanation, c'est réellement...
C'est, on fait un trou dans le crâne pour faire sortir des liquides.
D'accord. Alors,
et les gens survivaient puisqu'on a retrouvé des crânes avec des cicatrisations. Il y a eu ensuite une amélioration des soins avec en effet la grande invention des antibiotiques. Donc la médecine allopathique est absolument nécessaire et incontournable. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si on laisse aux personnes le choix de la façon dont ils ont envie d'être traités, on peut très bien tous cohabiter sans aucun problème. Maintenant, nous sommes dans une logique monétaire. Nous sommes dans un monde de l'argent. On le voit constamment, hein. C'est des milliardaires, c'est gens qui font des voyages touristiques pour aller dans l'espace, alors que des États n'ont même pas les moyens de s'offrir des soins pour l'ensemble de leur population. Eux, ils vont faire des voyages qui coûtent extrêmement cher, puisque développer une fusée, c'est des milliards de dollars ou d'euros. Donc, on est dans un système un peu dingue. L'argent est maître. Du coup, au nom de ce maître absolu, il y a des personnes qui empêchent d'autres de pratiquer. On régule, en effet, au niveau européen, de plus en plus. On avait l'homéopathie. Après, alors on dit maintenant l'homéopathie, elle sert à rien. Mmh. Donc, on interdit les remboursements.
Ouais, c'est fou. On en est quand même là. Ouais.
Mes enfants ont été longtemps soignés en homéopathie quand ils étaient petits. Et l'efficacité, on la trouvait tout à fait intéressante, puisqu'on a continué à le faire et que nous aimons nos enfants, qu'on n'avait pas envie qu'ils meurent. Hein. Donc, je crois que le vrai problème, c'est qu'on ne laisse plus le choix. En effet, aux gens, on les enferme dans un système. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, c'est là qu'il faut aller. Mmh. Après, libre aux individus de lutter ou de fuir. Hein, on en revient un peu à notre chère Laborite. Si on nous met dans un stress, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, on va créer peut-être par ces systèmes-là en fermant des pathologies de société. Donc quand même d'une période très complexe, hein, avec le Covid, et nous avons vu tous les effets qu'une société peut faire à ses individus. Et sous prétexte de les mettre en sécurité, je crois qu'on ne les a jamais mis autant en insécurité.
Le corps, à l'image d'une grande ville, est un balai continuel d'échanges. Certaines cellules assurent les échanges gazeux, nutritionnels et énergétiques, d'autres se chargent de la défense. Les structures sont mobiles et actives, les fonctions sont remplies, c'est l'état de bonne santé. Les dysfonctions causées par les traumatismes, le stress, les déséquilibres nutritionnels ou émotionnels peuvent affaiblir les structures et les fonctions. Le corps s'en arrange grâce à ses systèmes d'autorégulation. Cependant, les pertes fonctionnelles et structurelles vont s'accumuler, s'amplifier jusqu'à devenir difficilement supportables. Elles peuvent provenir d'une lésion plus ancienne, dite primaire. L'ostéopathe traitera les lésions secondaires, puis, par des questions, des tests précis, recherchera et traitera là où les causes primaires qui ont entraîné ces liaisons secondaires. En supprimant les causes par un travail conjoint avec les patients, on permettra au système d'autorégulation de recouvrir l'état de bonne santé. C'est quand même prendre les choses autrement, non ?
Oui. Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu de la médecine, j'aurais entre guillemets classique, allopathique. Mm-hmm. Bon, c'est une médecine de symptômes, c'est-à-dire qu'on a un symptôme, on traite le symptôme et... Souvent, la guérison intervient. Mmh. Quelquefois, non. Mais je dirais que dans la pensée, voilà, vous avez tel symptôme, vous avez telle pathologie, on va traiter. Ok, sans trop chercher pourquoi la personne a fait ça, surtout quand c'est des pathologies, on va dire, entre guillemets, récurrentes. Dans, je dirais, la thérapie manuelle, l'ostéopathie, on va chercher un peu plus loin. On va tirer un peu la ficelle. Mmh. Hein. On va essayer de comprendre un peu plus le malade, en fait. Hein, qu'est-ce qui provoque ces problèmes? Dans ma pratique, en fait, je vais moi aller chercher dans le viscéral, dans d'autres éléments, voire même dans les cellules, quand c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne fait constamment des allergies? Mais si on parle d'ostéopathie ou thérapie manuelle, pourquoi elle s'est blessée? Pourquoi elle se blesse régulièrement toujours au même endroit? Pourquoi elle a des lumbagos à répétition? Mmh. Pourquoi elle a des dorsalgies à répétition, des cervicalgies? Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, il y a des éléments de stress, le stress c'est un grand mot, hein, on est toujours stressé, vivre c'est un stress. Quels sont des éléments, je dirais, supplémentaires amènent justement à ce que ce système grandiose, hein, qui est le système à la fois cellulaire, énergétique, physiologique, qui fonctionne à merveille, hein, tu le disais, c'est un grand balai à l'intérieur de notre corps en ce moment. On est en train d'échanger, tous les deux, les auditeurs aussi, nous, pour certains qui nous écoutent. À l'intérieur de nous, nous n'en avons pas conscience, mais on a constamment des échanges gazeux, des échanges cellulaires. Le système immunitaire est toujours présent, jour et nuit, il ne s'arrête jamais. Il y a des échanges constants entre toutes les cellules. Il y a une recherche constante de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre des milieux internes. Toute pathologie est un déséquilibre du milieu interne, dans ma vision. Donc on va essayer de remettre en mouvement des organes pour permettre donc cette autorégulation de refonctionner correctement.
Donc l'ostéopathe, il est loin de s'arrêter à... Parce qu'ostéo, ça veut dire quand même l'os.
Oui.
Donc on peut avoir l'idée que l'ostéopathie, elle va travailler essentiellement sur la structure osseuse, sur le squelette, sur la colonne vertébrale, sur l'équilibre. Mais en fait, tout repose sur cette structure, mais vous ne travaillez pas forcément directement sur cette structure. C'est parce que tout repose sur cette structure que c'est...
Tout ne repose pas sur la structure. Non.
Ok.
Ok, tout est interconnecté. D'accord. On a un système nerveux central qui régule et qui contrôle à permanence un temps de fonctionnement dans notre corps. Il y a même ce qu'on appelle les systèmes autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont par eux-mêmes en autorégulation d'une façon, je dirais, un peu plus segmentaire. Donc l'ostéopathe, c'est malade de l'os, voilà. Hein, ostéon, c'est l'os, pathos, la maladie. Donc ça serait malade de l'os. Donc quand en fait Steele a donné ce nom, c'était parce que tu cherchais un nom qui permettait en fait à l'époque de dire voilà de son point de vue qu'est-ce qui rendait les personnes malades.
Donc là, tu viens de nous parler de Andrew Taylor Steele,
oui,
qui est un Américain et qui est le fondateur, celui en tout cas qui a donné son nom à l'ostéopathie.
Voilà, il a appelé ça comme ça. Alors c'est un peu réducteur, même c'est carrément réducteur, ça veut dire que tout viendrait de l'os, tout ne vient pas de l'os.
En même temps,
c'est
comme...
Sûr que l'os a une fonction primordiale, notamment au niveau de l'immunité, puisque c'est de la moelle osseuse que naissent les globules blancs et les globules rouges.
Parce qu'effectivement, déjà, lui formule trois principes qui sont très très loin du squelette et de l'anatomie ou du mouvement des os, des articulations, de la souplesse du squelette ou de l'alignement du squelette, puisqu'il dit qu'effectivement, il y a une unité du corps, mais qu'il y a des mécanismes d'autorégulation et que cette unité du corps, elle dépend de quelque chose de total, d'englobant en fait, non?
Oui, tout à fait. Ben là, on en revient un peu à ce que Charles Labourit... explique dans les systèmes englobés et englobants. Mm-hmm. Hein. Donc, oui, nous sommes constitués de tout un système qui ont chacun, en effet, une fonction. Et oui, on peut penser que la charpente osseuse serait un peu la fondation de notre système vivant.
Et dès qu'il y a un problème, ça va se porter un peu sur cette structure osseuse, on va dire. Non, pas
non,
forcément.
Pas forcément.
On ne peut pas dire ça. D'accord.
Non. Sur les squelettes qu'on retrouve, on peut en effet voir des pathologies liées au squelette, mais des fois, on ne sait même pas pourquoi la personne est morte. C'était autre chose. Ça n'a rien à voir avec le squelette qu'on retrouve.
D'accord.
Plutôt en bonne santé, d'ailleurs. Donc, le squelette est, je dirais, un système, et comme le système viscéral, comme le système musculaire, comme tous ces systèmes, ça fait partie d'un ensemble hein, du corps.
D'accord.
Il y a des personnes qui ont des pathologies où leur système squelettique est soit incomplet, soit pathologique, mais elles vivent quand même. Donc, pas toujours très vieilles, mais elles vivent. Ça veut dire qu'il y a des systèmes autres qui prennent donc la place pour ces systèmes déficients. C'est ça aussi un peu la magie du corps et de tout notre système d'organisation et de fonctionnement, c'est que des systèmes déficients sont souvent reliés par d'autres systèmes que tu n'es pas vraiment prévu pour, mais qui fonctionnent. Faire que de la santé de l'os, oui.
C'est complètement
incomplet. Il y a tellement d'autres systèmes qui interviennent.
Hein. C'est ça. C'est tout est en interaction en fait.
Oui. Enfin, on appelle ça les métamères, c'est-à-dire que nous sommes un peu comme les vers de terre formés d'un tas d'anneaux qui sont chez nous interreliés, chez le vers de terre non. Il n'a pas de système nerveux central comme nous. Nous on a.
C'est pour ça qu'il continue à vivre, même si on le coupe en deux
Par exemple, il a plein de systèmes autonomes. Donc, on le coupe en deux, mais il continue à vivre. Et tant qu'on ne coupe pas les parties, vitales du ver de terre, qui sont au milieu du corps, dans un petit anneau, eh bien, il peut continuer à vivre sans trop de problèmes. Voilà. Donc, faire que de la structure osseuse, ce qu'on pensait à un moment, certaines pratiques des rebouteux étaient de faire craquer les vertèbres pour redonner un état de bonne santé. D'accord, ça marchait pour certaines pathologies, ça marchait très très bien même, puisqu'en faisant ces pratiques là en fait on relançait des boucles qui étaient déficientes. Donc ça marchait, mais des boucles de guérison, c'est-à-dire c'est des boucles nerveuses qui étaient devenues un peu comme un moteur chaotique, hein, c'est-à-dire que elles tournaient, on appelle ça carré, c'est-à-dire que ça tournait plus rond, et du coup le fait de faire une manipulation structurelle avec un grand crack permettait de relancer ces boucles nerveuses, et du coup il y avait eu un bien-être presque immédiat. Et donc de ces pratiques là qui correspondaient à certaines traumatologies, certaines pathologies, après il y a des personnes qui ont voulu faire une généralité, mais en fait il n'y a pas de généralité dans le corps. Dans ce que je comprends du corps, il n'y a que des cas particuliers.
D'accord.
Nous sommes tous des individus particuliers. Même les vrais jumeaux ont des différences. Donc, nous sommes tous des cas particuliers. Et donc, ce qui fonctionne chez l'un peut ne pas fonctionner du tout chez l'autre, parce que même si, les symptômes sont identiques, c'est d'autres raisons qui ont amené à avoir une déficience et une pathologie. Et c'est cette vision-là qui est pour moi intéressante, qui est primordiale, c'est que un individu est individuel, dans l'ensemble de ces systèmes de vie, de pathologie. Donc cherchons à comprendre comment il fonctionne et on aura une chance de lui apporter du soutien et on va appeler ça une guérison, sachant que aucun thérapeute n'apporte de guérison. Nous ne sommes que des soutiens à sa propre guérison.
C'est-à-dire qu'il n'y a que des auto-guérisons, en fait. Le corps va trouver les chemins par lui. Il y a une sagesse du corps qui fait que même s'il y a l'apport des thérapeutes, c'est l'individualité dont tu parles qui va être stimulée.
Oui, dans ma pensée vraiment profonde, personne ne soigne personne. C'est l'individu qui se soigne avec l'aide d'autres personnes. Mmh. Et c'est lui qui trouve le chemin de sa propre guérison et personne d'autre.
Entre l'interrelationnel qui ne serait basé que sur du pouvoir et de la lutte et entre le fait de s'isoler totalement et de devenir... parce que ça répond aussi à une injonction un peu sociale d'être dans un individualisme, dans quelque chose qui n'est pas en interconnexion avec l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver là ou est-ce que c'est juste binaire comme ça ou est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y a un vrai impact interrelationnel pour aider les gens à s'auto-soigner.
Oui, là, tu... Bon.
Non, si, ça, c'est une question personnelle, oui. En fait. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver la mesure de ça.
Nous sommes, nous appelons des animaux grégaires, c'est-à-dire que nous vivons en tribu. Mm-hmm. Un homme seul est un homme perdu. Notre société ne crée que des hommes seuls.
C'est ça.
Donc, que des... hommes et des femmes et des enfants perdus.
C'est très inquiétant parce que je crois que c'est quand même assez nouveau finalement. Je sais pas si c'est nouveau, mais je trouve que là, il y a beaucoup de solitude. Beaucoup.
Oui, un homme isolé est faible. Donc, il va chercher un moyen de trouver, si son système d'action est encore efficace, un moyen de ne pas l'être. Évidemment que quand je dis que chaque individu a son pouvoir de guérison à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il est, à part peut-être des grands maîtres, et encore, même les grands maîtres sont toujours énormément entourés, comme c'est bizarre, alors qu'ils pourraient très bien, à moins qu'ils choisissent d'être des ermites, hein, parce que ça a aussi toujours existé les ermites, c'est-à-dire des gens qui se mettent à l'écart d'un système de société, qui disent « moi maintenant je vis seul, et je pense seul, et je vis seul ». Et ça c'est... des personnes qui ont fait un choix. Là, on est sur des personnes qui font pas ce choix du tout, qui sont comme toi, comme moi, des animaux grégaires dont nous cherchons la relation, l'interrelation, l'échange, le groupe, pour différentes raisons, notamment dans tout ce qui est système de soins. Quand je disais tout à l'heure qu'aucun thérapeute ne guérit personne, personne ne guérit personne. Mmh. Je suis désolé, mais c'est ce que je pense sincèrement. Hein, et je n'enlève rien à toutes ces grandes recherches de la médecine, de la physique, et même maintenant la physique quantique, enfin, etc., etc. Personne ne guérit personne. La personne trouve un élément à l'intérieur d'elle qui va faire que la guérison est possible.
Okay.
Mais pour cela, elle a besoin des autres. Mmh. Et donc, tout serait système... de guérison et d'ensemble qui va dans le sens de l'humain va permettre de guérir. Certaines personnes trouvent la guérison par la parole et en échangeant dans des groupes de parole. D'autres en faisant du sport. D'autres en faisant du sport individuel. Mais du sport individuel, c'est quoi? C'est quand on fait du footing, on fait un sport individuel, mais quand on croise un autre gars qui fait du footing ou une autre personne qui fait du footing, à une époque, on se saluait. Dire, ah ben tiens, t'es comme moi, hein, toi aussi, t'es avec moi. Voilà, ben on le fait plus. Donc ça c'est quand même bizarre aussi, hein. Comme si on allait s'envoyer je ne sais trop quoi en faisant un petit signe de la main. Donc retrouvons ces échanges, ces espaces. Un bonjour, c'est dire bonjour à quelqu'un. C'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Bonjour à toi.
Bon, c'est aussi juste reconnaître quelque chose qui se produit de toute façon, parce que le simple fait d'être en mouvement dans un même espace en même temps, enfin bon, ça communique, tout communique en fait.
Tout à fait, tout communique, tout se parle, il y a des tas d'échanges qui se font, je parlais tout à l'heure de la mécanique quantique, mais au niveau donc énergétique, de façon très inconsciente pour beaucoup de personnes, il y a des échanges continuels. Qu'on soit dans le métro, qu'on soit dans, dans la rue, ou même chez soi, nous sommes continuellement connectés, connected people. Donc on est constamment en lien. La guérison, elle passe bien sûr par l'individu, mais elle passe par aussi d'autres individus. Et c'est ça que je voulais dire. Mais notre propre guérison, c'est nous qui la trouvons. C'est nous qui savons qu'est-ce qui est le mieux. Tout à l'heure, tu parlais des grands pouvoirs maintenant que l'on a au niveau notamment des laboratoires, des médecines. On sait ce qui est bien pour vous. On a le droit de dire ben, peut-être que pour moi, non, c'est pas ça qu'il faut. C'est peut-être autre chose. Hein? C'est pour ça qu'on voit
mais
aussi.
C'est vrai qu'il y a une sacrée vigilance parce qu'en fait, on est pris dans une fabrique comme ça de produits, de désirs qui nous rendent plus objets que sujets, en fait. C'est dur d'être vigilant et de garder une autonomie et de garder un sens critique par rapport à tout ça.
Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin des autres.
C'est ça.
Parce que dans des groupes de pensée, on peut échanger. Et comme bizarrement, on retrouve des personnes dans ces groupes qui pensent un peu comme nous. On a tous des sujets communs, des pensées communes, des questionnements communs. Et donc, on voit bien qu'il y a des interrelations non dites. Pourquoi est-ce que lui, elle, lui, il pense comme moi. On a besoin des autres. On a besoin d'être dans un ensemble. Nous sommes constitués comme ça. L'isolement, c'est une catastrophe. C'est la non-humanité.